France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Le duel, et on va commencer, Natacha et Raphaël, avec les suites de cette scène qui colle décidément à l'image d'Emmanuel Macron. C'était au cours des Journées du patrimoine samedi dernier. Le président interpellé par un jeune homme, un jeune horticulteur qui peine à trouver un emploi.
Il y a des métiers qui nécessitent des compétences particulières. Quand les gens les ont pas, on les forme, c'est pour ça qu'on investit. Mais après, il y a des tas de métiers, c'est aussi... Maintenant, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier.
Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème.
Vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés et les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment.
Natacha Polony, vous titrez « Panique à l'Élysée ». Est-ce que c'est lié notamment à cette scène ?
Cette scène fait partie d'un ensemble. C'est-à-dire que cette scène, elle reprend la méthodologie d'Emmanuel Macron, le style qu'il a employé pendant sa campagne. Et pendant sa campagne, ça marchait, ça plaisait.
Ouais.
Et là, on a l'impression que la mécanique est cassée et qu'on ne voit plus que les ficelles. Et surtout, que ce qui apparaît, c'est le décalage total entre cette phrase qui se veut volontariste et la réalité du pays. Cela dit, c'est très intéressant cette scène parce qu'il faut analyser en profondeur ce que dit Emmanuel Macron. Sur le fond, il y a en effet, il suffit de se promener un peu partout en France pour le savoir, des tas et des tas de petites entreprises, et en particulier en effet dans l'hôtellerie-restauration, où des patrons ne trouvent pas d'employés. Mais on ne peut pas se contenter de dire ça. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est un phénomène global. Ce n'est pas de la seule responsabilité de jeunes qui ne voudraient pas travailler. Donc ce que dit Emmanuel Macron là, c'est une vision totalement univoque des choses qui repose sur un substrat idéologique libéral qui consiste à dire l'individu est responsable. Donc le rôle de l'État est de se désengager et d'agir le moins possible dans l'économie, et par son volontarisme, l'individu va lui trouver du travail si on le laisse.
Il y a un problème avec cette vision, c'est qu'il y a largement plus de chômeurs que d'offres d'emploi aussi. Donc c'est pas simplement une question de connecter les deux, c'est que l'économie produit pas assez d'emplois pour employer tous les chômeurs. Et dans cette vision, en fait, l'individu, parce que c'est ça le cœur, à mon avis, idéologique du macronisme, l'individu est responsable de son existence. C'est-à-dire que, eh bien, quand il réussit, il ne doit son succès qu'à lui-même, et quand il échoue, il doit son échec à lui-même aussi. C'est la vision qui a triomphé en Occident à partir des années 80. C'est une vision assez cohérente. Et en France, elle arrive, et il y a, à mon avis, un article absolument extraordinaire dans Le Point de Saïd Maran, qui explique en fait que tous les autres présidents avant Emmanuel Macron auraient, y compris Nicolas Sarkozy, dit-il, auraient pris une mine contrite. Parce que l'empathie était de mise, en fait, avec ceux qui n'ont pas d'emploi. Et là, on a une rupture où on assume le fait qu'il faut arrêter l'empathie et que chacun est maître de son destin. Or, c'est simplement faux, en fait. Chacun n'est pas maître de son destin. Chacun a une responsabilité dans la manière dont il se confronte à son destin, mais on a une place dans la société, on a une classe sociale, on a un environnement qui produit, même le plus grand, un des plus grands milliardaires américains,
Warren Buffett,
exactement, dit « Si j'avais été placé au milieu du Kenya, il est bien évident que je m'en serais pas sorti. Donc il faut arrêter avec cette théorie la simple responsabilité individuelle.
Natacha.
Je pense que en effet, il y a une question d'équilibre là-dedans. C'est-à-dire que l'émancipation, ce terme qui est si cher à Emmanuel Macron et qu'il place dans chacun de ses discours, ça ne se définit pas seulement par le fait qu'on va en effet lâcher l'individu dans la nature et lui dire débrouille-toi et si tu veux, tu peux. Alors, sachant qu'il faut mettre quelques conditions. L'émancipation, c'est un processus. Et c'est un processus qui, bien sûr, relève aussi par exemple, dans ce cas-là, du rapport que on va construire avec la notion de travail. C'est-à-dire, est-ce que le travail est une valeur ? Est-ce que dans une société, on arrive à faire passer l'idée que le travail est un des éléments constitutifs d'une personnalité et qu'il relève justement de l'émancipation nécessaire et de l'épanouissement ? Ça, c'est un des points. Mais on ne peut pas tenir ce discours-là sans avoir aussi la réflexion sur ce qui, dans l'organisation économique et sociale, est en train de détruire cette valeur travail. Si des jeunes gens se comportent de façon parfois consumériste, et je peux vous en citer des exemples absolument énormes, innombrables, en venant, en réclamant de pouvoir être licenciés quand ils ont besoin de toucher leur chômage, de recharger leurs droits, c'est parce que la société, d'abord, l'organisation du travail a fait en sorte d'induire cela. C'est-à-dire que ce qui a été fait pendant des années dans les grandes entreprises où on jetait les salariés comme des denrées périssables, eh bien, a induit un rapport au travail totalement destructeur. Et du coup, ce sont les petits patrons qui le payent parce que on ne voit pas pourquoi des employés se tueraient au travail et surtout s'accompliraient auprès d'une entreprise si eux sont corvéables à merci et peuvent être jetés.
Mais comment expliquer, c'est ce que vous disiez Natacha au tout début de votre intervention, comment expliquer que les mots du président, les transgressions passaient dans l'opinion plutôt bien lorsqu'il était en haut des sondages et aujourd'hui ça ne fonctionne plus, Raphaël?
Ça ne fonctionne plus parce que ça c'est un effet de répétition qui transforme la transgression en une norme de l'arrogance. C'est-à-dire qu'il y a là une forme de...
Arrogance.
Oui, bien sûr. Ça me semble évident qu'il y a une forme d'arrogance, mais même à la limite, ils le revendiqueront. Il y a une forme...
D'autres ont dit parler vrai.
Non, là, ça s'appelle une forme d'arrogance. Pourquoi ? Parce que
c'est toujours dans le même sens.
Voilà, parce que le parler vrai supposerait que dans ce cas-là, quand il reçoit l'ensemble des plus grandes compagnies et les héros de la fraude fiscale mondiale dans les jardins de la République, il leur parle vrai aussi. C'est-à-dire que quand il se retrouve face à Google ou Facebook, il devrait parler vrai. Alors, si c'est du parler vrai et qu'on dit, eh bien, à mort la politesse, disons enfin la vérité avec ampleur et force, eh bien, on commence par les puissants. Là, le problème, c'est que le parler vrai, il s'adresse à ceux qui sont dans une situation de dominé. Et donc, c'est pas du parler vrai, c'est de l'arrogance. Quand un dominant assume un parler vrai face à un dominé, mais pas face à un dominant, ça s'appelle de l'arrogance, du mépris de classe, ça s'appelle une condescendance en tout cas.
Encore un mot sur le sujet, Natacha ?
Encore un mot, je pense que le mal est plus profond que cela. C'est-à-dire que l'épisode de l'affaire Benalla, les résultats économiques chancelants montrent ce qu'est réellement le macronisme, à savoir qu'il n'est absolument pas disruptif ou novateur. Emmanuel Macron fonctionne comme tous les autres présidents que nous avons vu. C'est-à-dire qu'il espérait qu'en libéralisant et en dérégulant, en adaptant la France à la mondialisation néolibérale, il allait obtenir des gages, notamment de l'Allemagne, pour assouplir un petit peu ce qui est en train d'étouffer notre économie. Et il s'aperçoit que c'est faux.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Vous avez prononcé le nom, Natacha, Benalla. On avait réussi à y échapper jusqu'à présent, mais le feuilleton nous a rattrapés. Alexandre Benalla, qui vous le savez, a été entendu mercredi dernier par la commission d'enquête parlementaire du Sénat. Une audition de près de 3 heures et ses mots.
Je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron parce qu'il y avait déjà, comme je vous l'ai dit, pendant une durée de 3 mois environ, je ne veux pas me tromper, mais je vous fournirai exactement les dates des recrutements et l'arrivée des officiers de sécurité du SDLP. Vous aviez 2 personnes qui étaient en charge de la protection, qui étaient dans la voiture avec Emmanuel Macron, qui l'accompagnaient partout, même là où je n'allais pas, le soir, dans des rendez-vous, chez des médias, etc. Je n'étais pas avec lui.
Alexandre Benalla devant les sénateurs, c'est assez intéressant de voir la manière dont se déroule ce feuilleton avec une très grande difficulté aujourd'hui de percevoir les conséquences de cette affaire et d'en imaginer l'issue.
C'est d'autant plus difficile que Alexandre Benalla est un personnage assez étonnant. Il a très clairement parfaitement préparé cette audition. Le discours est impeccable, mesuré. On sent que les éléments de langage sont là et que c'est d'une efficacité totale. Sur le fond, il n'a répondu à rien. Alors, peu importe, on s'aperçoit que comme à chaque fois qu'il y a ce genre d'affaires, au bout d'un moment, on sature de ce genre de choses. Donc il faut arrêter de se focaliser sur cette affaire elle-même, qui n'est pas non plus l'affaire du siècle, qui doit rester dans sa juste proportion. En revanche...
Vous trouvez que les médias en parlent trop ?
C'est-à-dire que il faut à un moment donné prendre du recul et comprendre ce que cela révèle plutôt que de se focaliser sur les épisodes croustillants de cette histoire. Ce que ça révèle, c'est d'abord un rapport au pouvoir, une façon d'exercer le pouvoir de la part d'Emmanuel Macron. Macron. Et ce que ça révèle ensuite, c'est la fragilité d'un édifice où un grain de sable comme cette affaire-là et l'irruption de ce personnage sur la place publique est en train de fissurer totalement tout le discours du gouvernement. Pourquoi ? Parce que, justement, il n'y a pas de base solide autour pour ramener cette affaire-là à sa juste proportion.
Raphaël, alors, je suis totalement d'accord sur la deuxième partie, c'est-à-dire que ce qui est fou, c'est qu'après l'été, en fait, ceux qui relancent l'affaire Benalla, eh bien, ce sont les gens autour d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que en prenant son téléphone pour appeler le président du Sénat, le président lui-même va redonner un impact politique à l'affaire Benalla, qui en soi, donc, quand on connaît l'histoire de France, honnêtement, il y a eu pire dans l'histoire de France à l'Élysée que le comportement ultra répréhensible de Benalla. Et donc là-dessus, mais sur la première partie, bah, ce que ça révèle, c'est justement une forme d'hubris. Or, celui qui est touché par l'hubris, eh bien, panique quand il ne contrôle plus les événements. Et c'est ça qui se produit aujourd'hui dans la Macronie.
Vous parlez comme Gérard Collomb.
Ben, bien sûr, non, mais c'est mon...
qui est un des éléments de l'effondrement.
C'est mon nouveau philosophe préféré. mais il y a forcément, quand on a l'illusion du contrôle absolu, au premier grain de sable, quand on se rend compte que finalement nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes comme de l'univers, eh bien, on devient totalement paniqué et on fait des erreurs de débutant. Donc ça, c'est très surprenant. Sur la première partie, il y a quand même quelque chose de plus profond que simplement le macronisme là. C'est-à-dire que on a raison de s'attarder sur la manière dont Emmanuel Macron a pas su gérer du tout cet événement, mais la vérité oblige à dire quand même qu'on vit dans une monarchie républicaine, la Ve République, et que ça fait bien longtemps que ce genre de barbouzerie a cours en France et que nous ne sommes pas des habitants de la Suède, cher Libédo, si vous avez...
Pas encore,
en tout cas, mais peut-être que nous ne le saurons jamais, peut-être ne faut-il pas l'être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a un fonctionnement monarchique et que moi, je vois dans l'affaire Benalla, telle qu'elle explose aujourd'hui, au contraire, quelque chose d'extrêmement positif.
Ah,
c'est-à-dire,
oui.
Bah oui, parce que là, on a des contre-pouvoirs qui se sont mis en place. C'est-à-dire que c'est pas fréquent en France. Quand la France est accusée d'avoir soutenu un régime génocidaire, on a une mission d'information de l'Assemblée nationale qui questionne de manière extrêmement polie et quasi déférente, moi je me suis tapé, l'ensemble des auditions de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le Rwanda, et qui questionne le pouvoir de manière exécutive, de manière extrêmement déférente, en disant nous sommes vraiment désolés, sauf un ou deux députés qui sont des kamikazes et qui osent poser des questions dures, mais généralement les députés commençaient par vraiment, vous êtes absolument géniaux parce que vous incarnez la France, la grandeur de la France, et donc on est vraiment désolé d'avoir vous poser des questions. Là, c'est très différent, et je pense qu'en fait, on fait l'apprentissage, de la séparation des pouvoirs. Et quand Emmanuel Macron prend son téléphone pour appeler le président du Sénat, eh bien, il est un personnage de la Ve République traditionnelle. Pas du tout le nouveau monde, l'ancien monde, qui appelle une institution qui prend son autonomie.
Alors, j'adorerais en effet que ça manifeste de véritables contre-pouvoirs. Quand on voit que le président de l'Assemblée nationale est désormais devenu un poste totalement secondaire que l'on donne à quelqu'un qui a bien rempli son rôle, sans aucune réflexion sur le caractère essentiel de ce poste. Je pense que ça pose un problème. Et puis sur la question des commissions, je suis d'accord avec vous, on pourrait souhaiter qu'il y en ait d'autres. C'est-à-dire qu'il y aurait autre chose à faire que l'audition d'Alexandre Benalla. Par exemple, sur la Libye, on attend toujours une véritable commission d'enquête sur la Libye. L'Angleterre l'a fait et a été d'une dureté avec Tony Blair tout à fait excellente.
Avec Cameron.
Mais, et sur l'Irak avec Tony Blair.
Oui, parce qu'ils ont une tradition de ça. Donc moi, ce que je dis, c'est pas du tout que Emmanuel Macron est pour ça. Au contraire, il essaie de le freiner. Mais cette séparation des pouvoirs surgit contre le pouvoir exécutif. Et de toute façon, ça ne pourra se produire que comme cela, parce qu'en France, on a un pays dirigé par des roitelets qui, à 7 ans, veulent devenir président de la République et qui se prennent tous pour Louis XIV. Donc, à un moment, eh ben, il faut que ça arrive contre eux. Et ce qui se produit aujourd'hui, avec la faiblesse de la Macronie, c'est quelque chose de démocratiquement sain. C'est-à-dire que la situation pendant un an, où, en gros, des salles de rédaction aux institutions, on avait un défilé de courtisans et on se croyait dans les portraits de la cour de Louis XIV, eh bien, cette situation a pris fin, ce qui permet l'émergence du Sénat comme contre-pouvoir.
Encore un mot sur le sujet. Vous pensez qu'on vit aujourd'hui un tournant du quinquennat d'Emmanuel Macron, Natacha ?
Je pense que nous vivons un dévoilement de ce qu'est le macronisme. Mais encore une fois, ce n'est pas sur la dimension anecdotique de l'affaire Benalla que c'est intéressant. C'est sur la question institutionnelle, la question des contre-pouvoirs et sur la question économique qui est derrière. Les choix économiques d'Emmanuel Macron sont-ils justes? Sont-ils tenables? Je pense que tout cela est en train de chanceler et que, hélas, hélas pour le pays, nous allons revenir à l'impuissance qui était celle de tous les autres présidents, parce que cette impuissance est organisée, elle est choisie, il s'agit d'accepter un modèle économique qui s'impose à nous, dans lequel il n'y a plus aucune marge de manœuvre.
Raphaël.
Oui, mais il ne faut pas prédire l'avenir, c'est-à-dire que il y a encore une possibilité, on voit bien quelle va être la carte que va jouer Emmanuel Macron dans les moments qui viennent et dans les élections qui vont venir. Sa carte, ça va être de dire, ok,
moi, le chaos.
Voilà, vous, honnêtement, vous avez tous été déçus. J'ai bien compris que vous m'aimez pas spécifiquement, que je suis pas votre. Quand vous endormez le soir, vous ne pensez pas à moi en souriant. Mais c'est soit moi, soit Salvini, Orban et l'ensemble de l'extrême droite dégénérée qui vont prendre le pouvoir, casser la paix, casser la démocratie, casser les libertés. Et donc, je suis un vote refuge. Donc, tout l'enjeu, en fait...
Vous pourriez être son conseiller en communication.
Ça dépend. Non, mais
c'est pas très difficile.
C'est évidemment ce qu'ils sont déjà en train de faire. Et ils pensent que ça va fonctionner. Tout l'enjeu, pour moi, ça ne dépend plus. Alors, c'est triste pour lui parce qu'il pensait qu'il contrôlait absolument la situation. Je pense que ça ne dépend plus d'Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense sincèrement que quoi que fasse Emmanuel Macron, les gens ne changeront plus d'avis à son égard, mais que par contre, si rien d'autre de crédible n'émerge, qui ne soit pas Orban, Salvini et l'ensemble des dégénérés de l'extrême droite, eh bien, effectivement, sa stratégie peut fonctionner.
Mais c'est extrêmement dangereux car c'est comme ça que progressent les extrêmes. Et d'où la nécessité d'avoir des contre-projets, de proposer, de débattre et de ne pas se focaliser sur cette vision binaire du monde. En gros, il y aurait d'un côté les libéraux, de l'autre les illibéraux, d'un côté les nationalistes, de l'autre les progressistes. C'est une aberration, les problèmes ne se posent pas comme ça. La logique binaire en général est assez pauvre.
Les problèmes se posent parfois aussi comme ça. Mais c'est pas exclusif d'autres clivages.
Disons que quand il se pose comme ça, c'est justement parce qu'on a laissé sous le tapis tous les autres problèmes.
Bien sûr, et tout le risque dans ce clivage, juste, il faut quand même que les gens le sachent, c'est que ça a déjà eu lieu. On a un pays voisin qui s'appelle l'Italie, où l'ensemble des élites a rejoint Matteo Renzi, et où le thème c'était Matteo Renzi ou le chaos. Ben, on a eu le chaos.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Dans l'actualité aussi cette semaine, il y avait un sommet européen autour du Brexit qui s'est déroulé jeudi à Salzbourg en Autriche. Sommet tendu avec Theresa May qui a été très ferme en expliquant que c'était à l'Union européenne de faire évoluer sa position. Et la première ministre britannique est d'ailleurs dans une position délicate chez elle puisqu'elle fait face à une importante opposition dans son propre parti. Écoutez-la.
Si nous voulons parvenir à une conclusion réussie, tout comme le Royaume-Uni a fait évoluer sa position, l'Union européenne devra aussi faire évoluer la sienne.
Elle refuse de transiger, Theresa May. Elle a raison.
Non, mais Theresa May est coincée parce qu'elle se retrouve dans une situation où elle doit assumer un Brexit qui a été mal pensé par ceux qui l'ont voulu, qui n'a pas été réfléchi. Est-ce que pour autant cela veut dire que le Brexit en lui-même était quelque chose de catastrophique, que les Anglais se repentent, etc. C'est un autre problème. Et vous voyez qu'il faut distinguer les deux. Vous avez une mécanique européenne qui essaye à tout prix de limiter la libre décision de ses peuples par peur de ce qui pourrait advenir. Il faut maintenir en permanence la mécanique de marche en avant de cette construction européenne.
On peut aussi dire que l'Union européenne défend ses intérêts.
Non, mais ce qui est parfaitement légitime, que chacun défende ses intérêts, ça fait partie aussi du jeu. Le problème, c'est que justement, dans cette Union européenne, chacun défend ses intérêts, même au sein de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations totalement bloquées. Que le Brexit ait été voté est sans doute regrettable pour notamment certains pans de l'économie anglaise. C'est simplement un pays qui, à un moment donné, nous a rappelé que la question de la maîtrise du destin par les citoyens est essentielle. Après, ça se passe mal parce que, encore une fois, la classe politique anglaise du côté des partisans du Brexit est consternante.
Mais en même temps, il y a un problème. C'est-à-dire que, effectivement, la maîtrise est essentielle. Tout dépend de l'échelle à laquelle on veut placer cette maîtrise. Eux, ils ont décidé, de manière démocratique, que ça serait à l'échelle nationale. Donc, ils vont restaurer leur souveraineté nationale absolue. Mais ensuite, dans ce cas-là, s'ils ont fait ce choix-là, qui est un choix démocratique et une élection, moi je suis pas du tout pour annuler des élections et ensuite revenir dessus, mais eh bien qu'ils l'assument. C'est-à-dire qu'on peut pas non plus faire ce choix et ensuite vouloir avoir tous les bénéfices d'une appartenance à l'Union européenne sans y appartenir et sans avoir les contraintes qui vont avec une appartenance. C'est-à-dire que il y a dans le choix anglais, mais c'est un peu une vieille tradition.
Mais j'allais dire, ça a toujours été
l'attitude de l'Angleterre vis-à-vis de l'Union européenne. Et donc c'est la continuité avec Margaret Thatcher et les autres. Mais simplement, à un moment, l'Union européenne est en droit là-dessus de dire, écoutez, voilà, maintenant là, vous avez fait un choix très clair, vous avez mis fin à l'hypocrisie d'une appartenance non appartenante et d'un bénéfice sans contrainte. Eh bien, voilà, maintenant c'est vous et vous devez, si vous voulez continuer à avoir des accords avec nous, bah vous conformez à l'intérêt quand même de l'Union européenne. Et ça, moi, je trouve que dans l'attitude de Theresa May, je sais qu'elle est coincée, mais il y a une forme d'illusion sur la puissance de la Grande-Bretagne qui, franchement, seule, ne pèse pas grand-chose, en fait.
Natacha. Alors, je ne crois pas que la Grande-Bretagne pèse si peu seule, d'abord parce qu'elle n'est pas seule, elle n'est pas en train de se renfermer, elle est en train, au contraire, d'utiliser tous les autres modes de communication et de liaison, de lien qu'elle peut avoir avec les États-Unis, avec tout le reste. Donc nous verrons ce que ça va donner. Dans un sens, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce que l'Union européenne fait de cela. Très franchement, je pense que c'est la meilleure nouvelle qui pouvait arriver à l'Union européenne si on sait l'utiliser. L'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne a été un des éléments qui a contribué à casser ce que pouvait être un rêve européen. Et d'ailleurs, historiquement, ça intervient au moment où les États-Unis essayent de casser l'alliance entre De Gaulle et Adenauer pour former une Union européenne indépendante, c'est-à-dire avec une véritable défense et totalement une véritable puissance. Bon, ça a été détruit et l'Angleterre, de toute façon, empêchait cela. Donc, saurons-nous, à partir de là, saisir la possibilité d'avoir une Union européenne indépendante? Bon, je crains que ce ne soit pas tout à fait le cas, c'est dommage.
Là-dessus, on sera d'accord, on ne sera pas d'accord sur comment on y arrive, mais là-dessus, on sera d'accord, c'est-à-dire que le Brexit, c'était l'opportunité et incroyable pour l'Europe de enfin se redéfinir et enfin, en gros, être cohérente. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne l'a pas saisie.
On va en rester là pour le moment. Natacha, vous avez beaucoup écrit sur les rapports des hommes et des femmes au moment de l'affaire Weinstein. Vous avez repris le sujet dans un livre qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Délivrez-nous du bien, avec un point d'exclamation écrit avec Jean-Michel Quatrepoint. Et je me souviens de vos échanges passionnés à tous les deux la saison dernière. Notre invité cette semaine vient justement de signer une grande enquête sur la vie sexuelle en France. Et on va donc parler d'amour jusqu'à 13h. Le grand face-à-face continue avec le débat.